L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinoshoes.com/espoir. Cet épisode vous est présenté par Chaussures Rubino et Café Brossard.
C'est une bonne question. Je pense que je l'aurais pris dans mes bras. Je pense que c'est juste ça qu'elle avait besoin. Oui. La petite, là. La petite Marie-Pierre que tu parlais, là. Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de la série Grain d'espoir. Angelo Rubino, bonjour.
Salut.
Jean-Claude Delémac.
Bonjour les amis.
Bonne année.
Bonne année à tout le monde.
Bonne année à tous.
Très contente de vous retrouver. On veut vous remercier aussi d'avoir été si nombreux d'écouter le premier épisode avec Étienne Boulay. Merci à Étienne d'ailleurs de s'être prêté au jeu. On veut aussi vous parler du café Grain d'espoir parce qu'il continue d'être disponible partout en magasin, dans les Rubino, en ligne rubinoshoes.com. Vous pouvez le commander directement sur le site. Et il y a maintenant des distributeurs. Il y a la famille Raymond qui a des IGA sur la Rive-Sud. Il y en a trois. Vous pouvez vous les procurer à cet endroit-là. Également, dans les trois fraîchement bons sur l'île de Montréal. Et si jamais vous avez envie de les distribuer dans votre commerce, dans votre épicerie, vous pouvez nous écrire à support@commercialrubinoshoes.com. Maintenant, on a un invité aujourd'hui qu'on est très content de recevoir.
Très fébrile de recevoir.
Parce qu'elle était sur notre shortlist quand on a commencé à parler du projet et on la reçoit aujourd'hui avec beaucoup de bonheur. C'est une mannequin, c'est une DJ, c'est une autrice aussi. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Sois toi et t'es belle ». C'est une documentariste maintenant. Elle a fait un documentaire qui s'appelle « Dompter son dragon ». C'est Elsa Loaille. Salut. Yeah.
Salut!
Comment ça va?
Ça va bien, merci de m'avoir invitée.
On est vraiment super contents. Et pour les gens qui voudraient nous écouter en audio, c'est disponible au rubinoshoes.com/PGE. On est disponible sur toutes les écoutes, les plateformes d'écoute en ligne. Les gars, Eve, on commence une nouvelle année, 2022.
Oui.
Moi, j'allais commencer en fait en écoutant ton documentaire.
Ah oui?
Wow. Ouais.
T'as-tu aimé ça?
J'ai été bouleversée, moi.
Ça t'a parlé?
Bien, en fait, je pense que n'importe qui entame un chemin de rétablissement ne peut pas être happé par ces discussions-là qui sont d'une franchise, d'une ouverture, d'une simplicité, d'un don de soi. Moi, j'ai grandi beaucoup en écoutant ça, puis on se disait que c'était beau de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui.
Bien, moi, ce que j'ai trouvé qui était vraiment touchant, pour moi, ce documentaire-là est parfait pour quelqu'un qui se pose la question « Est-ce que j'ai un problème? »
Mm-hmm.
Chacune des histoires, que ce soit M. Barry, que ce soit Anne, ça vient nous rejoindre dans quelque chose où si tu es dans la dépendance, tu te reconnais. Puis ça sort de l'isolement. Dès que tu trouves une deuxième personne qui se sent ou qui vit les mêmes choses que toi, donc je trouve que c'était vraiment pertinent par rapport à ça.
Merci pour ton documentaire, Eve. Puis une des raisons pourquoi on voulait t'inviter avant même d'avoir vu ton documentaire, on voulait discuter avec toi du sujet du plaisir, du bonheur, mais du plaisir. Est-ce que c'est possible d'avoir du plaisir dans la vie quand on arrête de consommer? Puis est-ce que la vie, elle devient un petit peu plate? Tu sais, quand on arrête de consommer, c'est ça la question qu'on se pose dans l'épisode d'aujourd'hui.
C'est la grande crainte, je pense, de devenir plate quand on arrête de consommer. Toi, tu viens du milieu de la mode.
Oui.
On t'en parle un petit peu, pas beaucoup dans ton documentaire, par exemple, de comment c'était dans tes années de mannequinat.
Oui. C'était mal vu, nous autres, de ne pas consommer. Dans les années 90, je pense que ça a beaucoup changé maintenant, là, mais dans ce temps-là, si tu ne consommais pas, c'était mal vu. J'ai même perdu des shows parce que je ne consommais pas avec... les gens du show, je nommerai pas de nom.
Aïe, aïe, aïe.
Mais oui, c'était mal vu, puis on était, c'était le, ils appelaient ça le heroin chic.
C'est
chic d'être sur l'héroïne.
Ah, le heroin chic.
Fait que le look d'être stone sur l'héroïne, ouais. C'était chic dans ce temps-là.
Ça faisait un petit look stoïque.
Oui, ben c'était Nirvana, c'était
ça,
le grunge.
C'était les années grunge.
Fait qu'on était toutes sur quelque chose.
Fait que non seulement t'avais peur de devenir plate, t'avais aussi peur de perdre des jobs.
Mais je trouvais que le monde qui consommait pas à ce moment-là C'était du monde plate. Selon moi, je les jugeais, c'était comme, tu consommes pas, t'es plate, c'est sûr, là. Ça se peut pas que t'aies du fun ou qu'on ait du fun ensemble, parce que, de un, je me sentais coupable de consommer avec quelqu'un qui consommait pas. Mais c'est ça, j'avais l'impression que c'était du monde bien plate. Puis pourtant, hein?
Puis c'est drôle, je vais faire du pouce sur ce que tu dis, parce que, pour moi, c'est une des choses qui nourrit l'idée de rechuter quand on a arrêté de consommer, mm-hmm. c'est que la vie va être plate. Puis ça vient, ça prend racine dans ce que tu viens de dire. Parce que nous, quand on consommait, ceux qui ne consommaient pas étaient plates. Donc, veux, veux pas, on s'associe avec cette gang-là aujourd'hui ouais. quand on ne consomme pas. Puis c'est pour ça qu'il faut briser ça, puis c'est pour ça que ce thème de balado-là est tellement important.
Mais puis on trouvait que tu étais la personne toute désignée pour le faire parce que ta vie aujourd'hui, elle est toute sauf plate.
Ben, c'est tellement le fun, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est...
Non, mais est-ce que je suis la seule? Moi, j'ai, le 31 au soir, je me suis couchée tôt parce que j'étais fatiguée, j'étais en plein déménagement. Puis le lendemain matin, je me suis réveillée tellement bien, tellement en forme. Puis là, je me disais, c'est écrit où? Dans le manuel de la vie que le 31 décembre, il faut se fendre jusqu'à pas d'heure. Il est où le fun là-dedans? Je ne dois pas être la seule là, autour de la famille.
Nous autres, oui. On travaillait au Nouvel An, on travaillait, on était DJ. Okay, fait que, bon. Oui, on était complètement, je ne sais pas toi, mais moi, c'était, je faisais le DJ de même à la Diagonale. Mais j'étais vraiment comme pété à chaque fois, mais c'était pas, c'est ça, c'était pas la grande fête en tant que telle, parce que ça faisait, je travaillais.
C'est comme de dissocier fête et plaisir, tu sais, fête et vrai fun, parce que quand un dépendant consomme à la mesure où nous, on consommait, c'est pas vrai que c'est encore le fun.
Non, non, à la fin, c'est pas le fun, là. Ben, Gilles Barry le dit dans le documentaire, ouais. il dit, la consommation, ça commence avec plein de monde, puis ça finit tout seul.
On s'isole, puis dans ton cheminement de rétablissement, je pense qu'à un moment donné, t'as rencontré plein d'artistes. À un moment donné, tu as eu une conversation avec, je crois, Elton John.
Jour 11 de sobriété, c'est mon premier gig de DJ. C'est à Chicago, c'est un gros truc, là. Il y a 5000 personnes, puis je joue après Elton John. Donc, lui chante, puis après ça, moi, je joue. Puis c'est un gros événement, puis c'est des clients que je connais, fait qu'ils me connaissent bien sur mon contrat. Moi, c'était écrit une bouteille de Belvedere Vodka. Fait que là, il m'amène une bouteille, puis il m'amène une autre bouteille. Puis chaque fois qu'il y a quelqu'un, un assistant qui passe devant moi, il dit « Hey, t'as pas de verre? » Il m'amène un verre. Puis moi, je pleure à chaque fois, je sors dehors, je braille les faucelles qui tombent, le make-up à refaire, j'appelle du monde, mais je sais pas comment je vais faire. Mais je réussis à pas boire jusqu'à temps que j'embarque derrière les tables tournantes. Là, je mets mon petit jeton du nouveau sur les tables tournantes. Puis je regarde Elton John, je suis comme « Comment je vais faire pour faire le DJ? » Puis au début du rétablissement, on m'avait dit « Si tu sors dans un club ou tu vas à une place où est-ce qu'il y a de l'alcool, tu vas faire la fête, n'importe quoi, amène quelqu'un qui est sobre avec toi. » Fait que je m'étais déjà trouvé un buddy, Johnny, qui buvait plus. Fait que Johnny, il est derrière moi, puis je me retourne, puis je dis « Johnny, comment je vais faire? » Puis il dit « Tu sais, Elton John, là, 30 ans de sobriété, le bonhomme. » J'étais comme « Hein! » Si lui est capable de le faire, la petite Ève de Matane, là, j'ai super bien joué ce soir-là, étonnamment, parce que je savais pas que j'étais capable de bien jouer sobre. Mais en plus, je me rappelais de mes mix le lendemain. Ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que moi, je me rappelais plus de... Je faisais des mix écœurants, je pense. Mais c'est ça, j'arrivais à la maison et j'étais comme... C'était quoi les tunes? Aucune idée, là. Aucune espèce d'idée.
Blackout. Ça, c'était ma prochaine question. Est-ce que dans ton cheminement, là, tu sais, quand tu arrêtes de consommer, est-ce que tu perds de ta créativité? Parce qu'il y a bien des artistes qui ont peur de ça, qui souvent l'alcool ou la consommation, c'est comme leur moteur.
Oui, c'est ça, j'avais peur. Moi, j'étais certaine de ne pas être capable de... Écoute, je dessine, j'ai écrit un livre, c'est sobre. Je savais pas que j'étais même capable d'écrire un livre. Tu sais, ça a sorti... je fais des conférences maintenant, je savais pas que j'étais capable de faire ça. C'est tout plein de choses que je savais pas que j'étais capable de faire. Puis maintenant, j'ai l'impression d'avoir les outils pour pouvoir dealer avec ce stress-là à la place de consommer, parce que dès que j'étais stressée, que j'avais le trac, que n'importe quoi, moi, je consommais. Mais là, à la place de faire ça, j'ai des outils qui sont « actually healthy », qui sont sains.
Ça fait partie du processus aussi. Il y a une espèce de ligne de pensée en rétablissement que l'âge auquel on a arrêté de consommer, on a une certaine évolution qui arrête à ce moment-là. Et quand on arrête de consommer, il faut réapprendre cette évolution-là qu'on a mise de côté parce que les substances nous permettaient de fonctionner. Mais quand ça ne marche plus, il faut trouver une manière saine, comme tu viens de dire. Puis c'est là qu'on apprend à socialiser, à créer, à fonctionner sans consommer. Mais c'est un processus.
Moi, dans ton documentaire, tu discutes avec une femme qui s'appelle Anne Gauvin, qui était la directrice des maisons Pelado, là où Angelo et moi, on a fait notre thérapie. Puis elle aborde quelque chose que je trouve vraiment pertinent dans le sujet d'aujourd'hui. Elle parle du deuil de la consommation. Avant de se rendre au plaisir qu'on peut avoir dans une vie sobre, il y a cette portion-là de deuil. Jean-Claude, je voulais que tu nous en parles parce que pour chaque personne, c'est différent.
Complètement différent. Parce que ça dépend beaucoup de comment on va prendre la décision d'arrêter de consommer. Souvent, elle est imposée par l'entourage, par le travail, par plein de raisons, mais à un moment donné, ça devient un choix. Puis on en a déjà parlé. Moi, si je veux avoir du plaisir dans la vie aujourd'hui, il ne faut pas que je passe la journée en me disant « Aujourd'hui, il ne faut pas que je consomme, il ne faut pas que je consomme, il ne faut pas que je consomme. » Il faut que je fasse le choix une fois en me levant. Aujourd'hui, qu'il arrive n'importe quoi, je ne consommerai pas. Et c'est à partir de là qu'on ouvre la porte à autre chose. C'est comme si le deuil, il va se faire automatiquement parce que j'ai fait un choix. Mais le deuil, une des particularités, c'est un processus, le deuil. Donc, tu vas, en général, on commence par le déni. On ne veut pas le voir. Donc, on essaye de calculer notre consommation, de tu sais, juste la fin de semaine, juste après 5 heures, juste toutes les méthodes qu'on a tous utilisées, qui n'ont jamais
guerre,
fonctionné.
Fort,
c'est ça. Donc, après ça, mais il va y avoir la colère. On est fâché contre la consommation.
Ouais.
Mais il faut arriver au processus de deuil. Mais le deuil, ce qui est particulier dans le processus, c'est que ce n'est pas parce que tu as fini une étape qu'elle ne reviendra pas. Puis moi, je l'ai vécu, puis probablement vous aussi. Des fois, bon, une date, le 31 décembre, les fêtes, ouais. C'est pour ça qu'on a fait un balado sur ça. Des fois, ça va être une odeur, une chanson, un souvenir. C'est ça qui nous ramène, puis là, on a besoin de refaire ce choix-là.
Ouais.
Puis c'est pour ça que d'avoir du plaisir, puis d'apprécier la vie sans consommer, bien, ces moments-là, ils font juste passer comme un souvenir. Puis c'est là que, quand ça ne vient pas tout nous chambouler, puis remettre en question notre choix, bien, c'est là qu'on s'aperçoit que le deuil est fait.
Tu sais, Ève, dans ton documentaire, t'en parles que t'as atteint un vrai beau bas-fond, là, tu sais, un bas-fond de compétition. Est-ce que toi, ton deuil, ton processus de deuil, il a été long, il a été difficile?
Non. Moi, c'est le contraire. Écoute, je suis rentrée dans les fraternités anonymes avec le désespoir d'une personne qui se noie. Moi, j'étais au bout. Puis toute ma vie, j'ai senti qu'il y avait un vide intérieur. Je savais qu'il y avait quelque chose de pas correct avec moi. Je savais pas c'était quoi. Puis là, on vient de me dire, « Hey, ton problème, c'est l'alcoolisme. » Puis c'est toutes ces insécurités, toute mon obsession, toute la malbouffe, toutes les choses qui sont un peu négatives dans ma vie sont toutes réunies sous cette umbrella-là, l'alcoolisme. Fait que là, tu venais de me donner une solution puis une raison pour laquelle ça allait pas. Fait que moi, je suis embarquée à 150 %. Écoute, c'était comme...
C'était comme une délivrance.
Oui, parce que c'est ça. Puis je pouvais finalement lâcher prise sur toutes ces affaires-là. Fait que moi, il n'y a pas eu de deuil en tant que... C'était plus, OK, je lâche prise, parce que je voulais mourir de toute façon à la fin. Donc, tu lâches prise déjà là. Il n'y a plus de bouée de sauvetage, il n'y a plus d'autres essais. Tu as tout essayé, tout. Fait que tu te dis, ben écoute, la dernière sortie de secours, c'est la mort.
Ton documentaire, Eve, s'appelle « Dompter son dragon ».
Oui.
Est-ce que c'est possible de dompter cette bête-là qui vit en nous?
Ben je pense que oui. Je pense que c'est ça que j'ai fait. Je le vois plus comme amadouer ce dragon-là, puis il devient... C'est sûr que moi, je me lève le matin, là, puis il y a 18 personnages en haut qui crient fort, là, 18 dragons qui commencent à crier. Il y a l'alcoolique. Il dit, la boule à miroir, elle start. Ça crie là-dedans, tu sais. Fait que c'est ce moment-là, moi, quand je me lève, il faut que je... OK, c'est beau, je lâche prise, puis tout va bien aller.
Souvent, l'alcoolique ou le dépendant veut contrôler toutes les situations de sa vie. Donc, c'est ça qu'on dit, lâcher prise, d'accepter certaines affaires, de confier ça. On parle beaucoup de confier. Je sais pas, Jean-Claude, si tu peux nous éclairer sur ces sujets-là en tant que notre spécialiste du rétablissement.
Bien, c'est qu'il y a tellement de choses qui arrivent sur lesquelles on n'a pas de contrôle, puis ça ne me tente pas de rentrer dans les détails, mais on est dans une période, oui, justement, où on contrôle
rien,
pas grand-chose. Fait qu'au moins, ce qu'on peut contrôler, c'est de faire le choix d'accepter qu'on ne contrôle pas grand-chose. Déjà là, là, on a beaucoup d'énergie de sauver qui peut être utilisée à bon escient. Puis moi, je pense que, tu sais, il y a une expression qui s'appelle « avoir du gaz », tu sais. Ce que tu décris comme la fin de ta consommation puis ton arrivée dans les fraternités, tu n'en avais plus de gaz.
Non.
Puis c'est ça souvent qui est difficile. Moi, je travaille avec quelqu'un présentement. Ça me fait de la peine qu'il y ait encore du gaz, mais je sais que tant qu'il va en avoir, il n'est pas prêt à juste arrêter de se battre.
Moi, en parlant dans la préparation de l'épisode d'aujourd'hui, j'ai réalisé que je vivais constamment dans la peur de manquer de consommation, dans la peur du ridicule, dans la peur de me planter, dans la peur de ne pas avoir du succès. Puis tout ça était intrinsèque à ma consommation. Puis on dirait que d'arrêter de boire puis d'arrêter de consommer, ça m'a donné droit à une nouvelle liberté puis ça m'a donné accès à mon plein potentiel. Est-ce que tu as l'impression que c'est ça qui t'est arrivé?
Oui, moi, c'était... C'est comme une job à plein temps, à temps plein en français.
Ouais. Ouais.
C'est vraiment comme du matin au soir où c'est que je vais prendre ma prochaine dose, puis elle a dit ça, puis là, c'est sa faute. Trouver des raisons, trouver des excuses pour les mentries que j'ai données. OK, qu'est-ce que j'y ai dit à celui-là? Lui, j'y ai-tu dit que c'était jaune ou que c'était bleu? Carlan! Fait que là, essayer de... Hey, c'était toute qu'une job. Non, maintenant, c'est ça, je dis, je me lève le matin, ça crie, je suis tout doux, c'est bon.
Angelo, toi, tu t'es découvert plein de passions dans ta vie en rétablissement.
Bien, j'ai découvert que c'était possible d'avoir du plaisir sans consommer. Donc, par la force des choses, j'ai une grande famille, on a une entreprise, j'avais beaucoup d'événements, un petit peu comme Eve, là, tu sais, pas aussi jet-set. Mais je pense que le fait de vivre tous ces événements-là maintenant complètement abstinent, j'ai bien plus de fun que je pouvais avoir avant. Je me suis trouvé des passions. J'ai commencé à courir. J'aurais jamais pensé que c'était possible de me lever à 6 heures du matin pour aller courir.
Quand il fait froid et qu'il y a de la neige. Moi, tu m'as conté ça l'autre jour, j'étais là.
Ah, c'est
ça,
le fun.
Ça, c'est encore un bout que moi, mon cerveau, il comprend pas. Là.
Ça, je fais à tous les matins.
Toi aussi?
Oui.
Mais quand on arrête de consommer, on découvre qu'on a beaucoup de temps à combler parce que ça prend du temps à consommer. Dans une journée, je parle. Donc, il fallait le combler ce temps-là. Fait que là, on se découvre quelque chose que j'avais pas avant, c'est des hobbies, donc des activités.
Mais il y a un high aussi avec toute fou. Forme d'exercice. Là. Quand t'arrêtes, t'es comme, ah, oh, il y a un high là-dedans que c'est addictive.
Je vais changer le high, parce que pour moi, high, ça va être la consommation. Je vais utiliser plutôt l'expression « il y a un bien-être ».
Ouais.
Ouais.
Puis c'est ça, quelle que soit la passion qu'on a, il y a un sentiment de paix, de calme, qu'on est sur notre X, on a fait ce qu'on devait faire. Et ça, ça remplit.
On dit en anglais « high on life ». Moi, même avant de me rendre au moment où j'ai découvert que j'avais des passions, parce que moi, j'arrêtais pas, je disais tout le temps la même affaire. Je disais tout le temps, moi, j'ai deux passions dans la vie, travailler et faire le ménage. C'était le fun de ma vie, là. Mais donc, c'est ça, avant même de me rendre au point où c'est ça, j'ai découvert qu'il y avait des affaires que j'aimais faire. Être high on life, c'est quelque chose que je savais pas qui se pouvait. Puis là, je comprends aussi le concept de bien-être, mais juste de te réveiller le matin, pas amenuisé. Tu sais, pour une fille comme moi qui est tout le temps dans la performance, moi, j'aime ça être efficace. Imagines-tu comment je mettais de la gravelle dans mes souliers à tout le temps me ralentir? Fait que là, on dirait que de juste me réveiller le matin, c'est une célébration.
Mais non, puis c'est exactement ça. Puis tous les paradigmes, j'aime pas utiliser de grands mots, parce que je pense que c'est une des qualités de nos podcasts, c'est qu'on simplifie les choses. Là. Il faut juste changer notre façon de voir les choses. Puis tu l'as décrit un peu, se découvrir des passions, puis tout ça, ça rentre vraiment dans le sujet d'aujourd'hui, parce que moi, quand j'ai arrêté de consommer, je savais même pas ce que j'aimais. Tu sais, si tu avais de la dope, ben j'aimais ce que tu aimais. Si... t'avais un char que moi, mon ego était content quand je débarquais de ton char. Ben si t'aimais manger du Mexicain, j'allais souper avec toi. Tu sais, ma vie, j'ai adoré ton expression, c'est une job à temps plein consommé.
Ouais.
Et moi, c'était pas juste la consommer, là, c'était en avoir, puis calculer, puis pas en manquer, puis c'est vraiment ça. Mais on fait quoi maintenant? Je suis qui? C'est qui Jean-Claude? Il aime quoi? Vous avez un atelier que vous avez fait chez Pelado, je sais pas si vous en souvenez, de se découvrir c'est quoi qu'on aime. Puis, mais c'est ça. Tu sais, quand je vous disais tout à l'heure, à 14-15 ans, quand on commence à consommer, c'est là normalement qu'on découvre ce qu'on aime. Mais là, on arrive 25, 30, 35 ans, je ne sais pas quel âge vous avez eu quand vous êtes arrivé, mais c'est là qu'il faut apprendre maintenant qu'est-ce qu'on aime, on est qui. Puis en général, ce processus-là commence par essayer des affaires qu'on n'aime pas. Mais moi, je dis essaye tout, puis à un moment donné, ce que tu n'aimes pas, tu vas savoir tout de suite.
C'est ça.
Fait que là, t'élimines ça, bien, ce qui reste, c'est des choses que t'aimes.
Est-ce qu'il y a quand même des activités qu'il faut proscrire? Exemple, t'es quelqu'un qui aime les stimulants. Puis là, tu vas commencer à faire du saut en parachute compulsivement ou à t'entraîner à tous les jours comme un malade. Est-ce que ça peut devenir dangereux?
Bien, ça peut devenir dangereux si l'avion tombe. À un moment donné, t'as un pourcentage. Non, mais c'est surtout, sans blague, c'est que, surtout si on aime les stimulants comme moi, je les aimais, d'aller chercher des activités qui vont nous ramener au buzz, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas la chose la plus productive à faire. C'est comme si on continuait à nourrir le dragon.
Ouais.
Je vais prendre l'expression, là. Moi, ce que moi je recommande, c'est plutôt d'essayer de trouver des moyens pour pouvoir entrer en contact avec nous, puis en qui on est, puis c'est quoi qu'on aime faire. Jogging, c'est extraordinaire. Tu es tout seul, bon, des fois tu mets de la musique. Moi, je connais des gens qui joguent, je ne sais pas si c'est ton cas, ils n'ont même pas de musique. Ils ne veulent pas, ils veulent profiter de ce moment-là. Il y a toutes sortes, mais essaye quelque chose. Si tu n'aimes pas ça, essaye d'autres choses.
Marie-Pierre, toi, as-tu découvert des choses comme ça depuis que tu as arrêté de consommer? Que...
Mais moi, c'est drôle. T'sais, moi, j'avais vraiment peur de... Moi, je disais tout le temps que je n'étais pas bonne dans rien.
Mm-hmm.
Puis là, cet été, j'ai commencé à jouer au golf. Mais pas en buvant 14 Bloody Caesar. Là, je jouais pour de vrai au golf. Là, j'étais comme, ah, finalement, je pense que je suis pas pire. Puis moi, toute ma famille, on a un chalet. Tout le monde chez nous fait du ski nautique. Puis moi, j'en ai jamais fait parce que j'avais peur de tomber. Fait que je voulais pas faire ça. Puis je disais que je m'étais fait mal quand j'étais jeune. Puis c'était pas vrai. Puis là, il y a un matin.
C'est ça, les menteries. Hein?
C'est ça. Ah oui, moi, j'étais menteuse comme une arracheuse dedans. Puis j'ai dit à ma mère cet été, je vais faire du ski aujourd'hui. Mais pas du ski à deux. J'ai dit, je vais faire du ski à un, je vais faire du slalom. Puis là, elle m'a dit, oui. T'as 35 ans, tu te lèves un matin, toi, tu veux faire du ski, c'est cute. Fait qu'elle s'en va, tu sais. Puis là, je dis, non, mais. Fait que là, je sors ma rigue, tu sais, je prends le ski à ma belle-sœur. Puis finalement, j'ai décollé premier coup. J'ai fait du ski tout l'été. Puis dans le fond, ce qui m'empêchait de le faire, c'était ma crainte. Fait que c'est capoté quand même. Je me suis découvert une passion maintenant. Là, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Là, le soir, le soleil se couche, le lac devient en huile. Tu pars, tu fais ta raide de ski. T'as mal dans les mains, t'as mal partout. Mais c'est un moment justement de zénitude et de bien-être extraordinaire. T'sais. Ève, est-ce qu'en début de rétablissement, t'en as eu des espèces de moments d'élimination comme ça, de faire comme « wow, je suis capable de faire ça ». J'ai ce potentiel-là, ouais.
Ben oui, t'as le pink cloud, mais effectivement, quand tu commences, tu sais pas qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, puis mettre mes limites en relation, mettre mes limites avec les gens autour de moi, ma famille, n'importe quoi, c'est des choses toutes simples pour quelqu'un de normal, entre guillemets, mais pour moi, c'est impossible. Donc, ça sortait du croche, j'essayais tout plein de choses, puis je me cassais la gueule, puis je me rendais compte que je détestais beaucoup d'affaires, beaucoup plus que j'en aimais. Maintenant, après 5 ans, c'est là que je commence à vraiment récolter toutes les promesses qui nous racontent, les miracles qui se passent dans la vie. Puis je les vois, parce qu'avant ça, je ne les voyais pas. Je pensais que le bonheur était à l'extérieur de moi. Je pensais que ça arrivait parce que j'achetais le petit éléphant avec la trompe en haut, parce que j'avais le char de l'année, parce que je me disais, quand je vais avoir une maison sur le bord d'un lac, je vais être heureuse. J'avais une maison, j'en avais 5 sur le bord d'un lac. Pas plus heureuse, là. Fait que c'était tout le temps à l'extérieur, l'extérieur. Puis là, je découvre que, aïe, aïe, le bonheur, il est là, là.
Comment tu fais pour cultiver ça, ce bonheur-là? Parce que ça peut avoir... On dirait que moi, je me pose tout le temps cette question-là. OK, c'est beau, tu le dis, ça a l'air super simple, mais comment tu fais? Moi, c'est tout le temps cette portion-là que je me dis, c'est quoi le truc du monde?
Bien, je pense que c'est là, à l'intérieur, mais on a tellement peur... En tout cas, je vais parler d'enjeu, là.
Ouais.
Moi, je me suis construit des murs, puis des blocs, puis des affaires, puis des filtres, puis je filtre tout ce que je dis, puis je filtre tout comment je me tiens, puis tout ce qui se passe est filtré, puis contrôlé, puis... Il n'y a pas de place pour laisser le bonheur sortir. Mon parrain me disait tout le temps, mets de l'avant l'adulte, puis protège l'enfant intérieur. Puis c'est ça qui est difficile. Parce que j'ai tendance à envoyer, puis j'en parle dans le documentaire, ouais. J'ai tendance à envoyer au front l'enfant intérieur, puis à protéger l'adulte. Mais l'adulte, elle sait comment dealer avec tout ça. Mm-hmm. Puis c'est l'enfant intérieur qui est blessé. C'est pour ça que je buvais, moi.
Dans le rétablissement, on parle de la consommation. Souvent, on parle du c'est le 15% de la problématique, puis il y a les émotions. Puis j'ai l'impression que gérer les émotions, dans le sens gérer les « highs », quand ça va super bien, puis gérer les lows quand ça va super mal, c'est ça qui est comme un peu plus un défi. Donc, les highs, c'est aussi souvent l'alcool ou la consommation devient comme notre récompense quand ça va bien, ou il y a un événement spécial, la naissance d'un enfant, là, peu importe, ou quand il y a un grand low, un deuil, exemple, souvent ça devient la solution. Là, maintenant, il faut apprendre à gérer ces émotions-là sans les geler.
Bien, il y a une première partie qui est d'apprendre à les gérer sans les geler, mais aussi la notion de
récompense.
D'autres, c'est plus. C'est toujours plus. Tu sais, j'avais entendu ça dans un partage. La personne dit, moi, ma drogue de choix, c'est plus. Plus de n'importe quoi. Puis, les substances nourrissaient ça. Fait que le premier travail, puis c'est pour ça que moi, personnellement, si tu arrêtes de consommer, c'est extraordinaire, mais si tu bois 8 Red Bull par jour, il y a encore comme une recherche de buzz, de quelque chose. Il faut comme d'abord ramener un équilibre. Tu sais, la vie, c'est pas une recherche de buzz. Tu parlais de parachutiste tout à l'heure. C'est cool faire du parachutiste, mais pas tous les fins de semaine, trois fois par fin de semaine. Tu sais, il n'y a pas d'équilibre là-dedans. C'est ouais, comme...
Mais je réalise qu'il y a beaucoup de gens en rétablissement qui font des transferts. Fait que ça peut devenir comme dangereux. Toi, est-ce que tu as réalisé des fois que tu faisais des transferts dans d'autres choses, peut-être le travail ou l'entraînement ou...
Non, moi, j'ai transféré des meetings.
Ça, c'est un bon...
C'est bon.
Parler à mon parrain, faire mes étapes. Moi, les 12 étapes, ces programmes-là, là, c'est devenu ma nouvelle addiction parce que j'ai l'impression d'avoir eu une deuxième chance à vivre. Vraiment, là, j'étais physiquement parlant, je suis censée être morte, là. T'sais, mon docteur me le dit tout le temps, c'est pas normal, là. Cardiologue, quand t'as vu ça, c'était pas normal. Fait que j'ai eu une deuxième chance, puis je l'apprécie en sacrifice. Fait que ma nouvelle addiction, c'est la gratitude, puis les meetings.
Fait que quand tu vis une émotion qui est forte ou t'en parles, j'imagine, t'appelles ta marraine.
Dans ce que tu disais, il y a un danger aussi d'être déséquilibré avec les meetings puis le programme. Parce que tu ne vis pas pendant ce temps-là. Tu sais, les meetings puis le programme, c'est supposé te redonner des outils pour vivre. Parce que le but, c'est vivre.
Ouais.
Tu sais, c'est pas... Moi, je ne veux pas être le plus vieux membre des fraternités de la province de Québec. C'est pas ça mon but, là. Tu sais, moi, je veux être heureux en continuant à accumuler du temps d'abstinence. Puis je veux, si je profite de la vie, puis que, comme tu dis, j'adore quand tu parles de reconnaissance, de gratitude, tout ça, bien, si la vie est bonne, puis elle est bonne pour moi, malgré tout ce qui se passe, bien, j'ai envie de continuer à pratiquer ce programme-là, j'ai envie de continuer à transmettre le message, j'ai envie de continuer à être le meilleur homme que je peux être en utilisant ce programme-là, parce que je vis, puis je profite de la vie.
Donc, si je comprends bien, si je synthèse ce que vous venez de dire, c'est quand ta vie s'enracine dans le programme que tu arrives à avoir une espèce d'équilibre et non pas que tu recherches les meetings de façon maladive puis qu'il faut que tu en fasses 5 par jour. C'est comme d'essayer de trouver un équilibre et une balance là-dedans.
Oui, parce qu'il y en a qui font 1 an, 3 meetings par jour. Je dirais pas l'expression qui monte, là, mais ils en mangent.
Ouais.
Mais après ça, ils sont écœurés. Puis là, ils n'en font plus. Si on lit la littérature de ceux qui sont arrivés avant nous et qui nous ont légué le programme, ils parlent de régularité. Ils ne parlent pas d'en faire plein, puis après ça, t'arrêtes.
Mais c'est parce qu'on a des personnalités excessives. Fait que c'est sûr que quelqu'un, tu lui dis, fais du meeting, ça va bien aller.
Mais
ça
go, se peut qu'il ouvre la machine. Go, ça te sauve la vie. Puis ça. Moi, longtemps, j'en ai fait 3 par jour. Ouais. Puis, tu sais, je vous dirai pas combien j'en ai fait quand je suis revenu. Là, c'est beaucoup. Ouais. Beaucoup plus que le fameux 90 jours, 90 meetings qu'on entend. Là. Mais c'était parce que moi, une heure dans la rue, j'étais en danger. J'allais consommer. Donc, j'aimais mieux être dans un meeting. Mais c'est pas la réalité. Tu peux pas garder ça pendant 5 ans. Okay. Tu as commencé à vivre, tu fais d'autres choses.
Oui, oui, c'est sûr, je n'ai pas du meeting. Ben non, c'est ça. Un matin, je partageais dans un meeting. Oui, puis là, ça. Je suis ici aujourd'hui, puis je considère ça comme un meeting. Ouais. Je suis assis avec d'autres alcooliques.
C'est ça.
Donc, c'est surtout ça que je parle. Ouais. Là. C'est pas une obsession, c'est pas maladif. Non, c'est, ça. Là, non, c'est non. Juste.
Mais tu vis.
C'est là que je trouve mes réponses. C'est avec d'autres alcooliques. Que je trouve les réponses à ce que... Tu sais, Freud, il a fait quelque chose comme ça, il a dit le mimétisme, lui, il disait, si moi je m'ouvre, puis je me dévoile, puis je me rends vulnérable devant un autre être humain, par mimique, l'autre être humain va faire la même chose.
C'est
exactement ce qui se passe dans les salles de meeting, c'est ça. Exactement ça.
Mais le rétablissement, là, c'est pas une solution miracle à tous les problèmes, c'est juste ça que je voudrais donner un petit avertissement, c'est... Les problèmes de la vie vont continuer.
Oui.
Tu arrêtes de consommer, mais les problèmes, ils n'arrêtent pas eux. Donc, il faut que tu apprennes à vivre ces problèmes-là de façon abstinente.
De façon saine. Moi, je n'appellerais pas ça des problèmes. C'est la réalité de la vie. Ouais, il y a des embûches.
Des aléas de la vie.
Je me souviens, un des premiers livres que j'ai lu en rétablissement, c'était « Le chemin le moins fréquenté » de Scott Peck. Puis moi, la première phrase de son livre, si on me l'avait dite quand j'avais 14 ans, ça aurait changé ma vie. La première phrase, c'est « la vie est difficile ». Ça remet tout en perspective que c'est pas supposé d'être facile, mais nous, on a une perception, puis en plus, avec les substances, ben t'en prends plus, c'est plus facile. On a tout faussé. Il faut juste remettre ça sur le chemin des vaches, comme c'est beau, mais ça pue parce qu'il y a de la bouse de vache. Puis c'est ça la réalité de la vie. Puis on fait quoi maintenant avec ça?
Mais moi, j'ai le goût de dire là, que c'est pire encore aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Oui. Parce que les réseaux sociaux nous envoient une image que la vie de tout le monde est parfaite. Donc, si toi, dans ton coin, tu souffres, tu as d'autant plus l'impression d'être le seul. Parce que tu regardes sur Instagram, tout le monde a l'air donc bien heureux d'être content de vivre, puis des belles vies, des belles maisons, des beaux chars, de la belle Guinée. Tu sais, t'es comme, voyons, c'est juste moi le fucké qui ça tourne pas rond, tu sais. Puis je trouve ça le fun, justement, que dans les meetings, puis dans les fraternités, puis dans la littérature, on y trouve des réponses. Parce que c'est de ça qu'on a besoin pour finalement trouver cette balance-là, puis cet équilibre-là. Puis moi, en début de rétablissement, c'était aussi ça. C'était comment je me récompense. C'est quoi mon système de récompense maintenant que j'ai pu la maudite bouteille de champagne? Parce que moi, tout était une raison pour popper le champagne. Mm-hmm. Je m'étais brossé les dents. Champagne! j'avais attaché mes bottes sur le sens du monde. Champagne! J'étais vraiment... C'est ça, c'était problématique. Fait qu'après ça, quand tu vis un grand bonheur... Moi, quand j'ai su que j'avais le rôle de Arlette dans le film de Marie-Lou Wolfe, j'ai vécu un grand, grand bonheur. Puis là, je me suis ramassée devant rien. Devant pas de solution. Je me disais... Qu'est-ce que je vais faire pour célébrer? Ça va être quoi mon moment? Puis c'est là où, je vous dirais presque un an plus tard, ça revient à ce que tu viens de dire, c'est pas obligé d'être extrinsèque à moi. Ça peut venir de l'intérieur, puis ça peut être tout petit. C'est juste de faire bravo. Tu l'as eu, tu le voulais, tu es allé le chercher. Mais sois fier. C'est aussi petit que ça, là, aussi simple que ça. Puis après ça, ce qui me fait du bien, mon envie, c'est prendre un bain pour faire un meeting. J'ai pris un bain, j'ai allumé du Palo Santo, j'ai mis des huiles essentielles. Puis après ça, j'ai fait un meeting, je me suis couchée. Le soir, j'ai pleuré de bonheur. Mon Dieu, ça me touche de dire ça. Oui, parce que ça se peut avoir accès à ce bonheur-là qui semble sans feu d'artifice, mais qui est tellement plus profond et vrai. C'est un peu magique quand tu atteins cette affaire-là.
Moi, je vis dans la gratitude. Puis quand j'ai commencé dans le rétablissement, mon parrain, ça allait mal. J'étais dans un processus de séparation, etc. Je vous épargne les détails. Fait que ça allait pas bien. Puis je me rappelle que mon parrain m'a dit juste rédige 10 gratitudes à chaque matin. Ça se peut que ça soit répétitif, mais de faire cet exercice-là, puis de réaliser qu'il y a tellement d'affaires qui vont bien dans ta vie. au lieu de focusser sur qu'est-ce qui va mal, ça, ça a été une grande découverte dans ma vie. Genre, tu sais que si tu focuses sur qu'est-ce qui va bien, ça va aller mieux. Puis le bonheur, c'est un choix.
Il faut juste changer notre façon de voir les choses. Puis j'aime beaucoup ton exemple, tu sais, parce que nous, comme je disais tout à l'heure, on exacerbe encore là, j'ai ce mot-là, mais tu sais, tout est plus, tu sais.
Fait que faut c'est que ça comme, soit à côté dans la barrure, là.
Puis le vrai plaisir, il n'est pas là. Ouais. Il est dans des petits moments de bien-être où ce qu'on touche à notre âme, puis ça fait wow, bon coup.
Eve, si tu avais à faire un pitch de vente à quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit il y a peut-être de quoi qui ne marche pas dans ma consommation puis qui est peut-être prêt à faire des changements dans sa vie.
C'est, je pense pas qu'il y ait une phrase qui fit pour tout le monde.
Non.
Tu comprends? Je pense pas qu'il y ait une phrase, sinon il y aurait des banners de ça partout. Je pense que durant le podcast d'une heure, il va peut-être avoir une phrase qui a touché quelqu'un à quelque part. Puis c'est ça le but, en fait. Durant mon documentaire, il y a peut-être une phrase qui a touché quelqu'un à quelque part. Puis c'est peut-être, ça vient peut-être de Gilles Barry pour cette personne-là, ça vient peut-être d'Anne Gauvin pour cette autre personne-là, mais il n'y a pas de package comme c'est ça, puis that's it. Ça se peut pas. Chaque être humain est différent, on a tout notre élément déclencheur, il y a des choses qui nous touchent que toi, ça ne toucherait pas.
On peut pas généraliser. C'est non. Ça l'affaire avec la consommation, c'est qu'il y a autant d'histoires différentes que de consommateurs différents. Fait que c'est difficile de dire, ben fais ça, puis ça va bien aller.
Oui, c'est ça.
Ben il y a les 12 étapes.
Il y a de regarder ces petites victoires, c'est niaiseux, là, mais moi, j'ai tendance à regarder la montagne devant moi. Je regarde pas les 10 montagnes que j'ai montées et redescendues derrière moi. Jamais. Jamais, parce que c'est de la merde, la vie c'est de la merde, une petite montagne est grosse, il neige, calisse. Mais il faut des fois que je me retourne et je dise, aïe aïe, j'ai réussi, hey, ça fait 5 ans que je bois pas, c'est quand même pas pire.
Ça c'est une grosse victoire.
Ben, c'est quand même pas pire là, je fume pas, ça fait 3 ans et quelques.
C'est énorme.
La cigarette c'est pire ça pour moi là, j'aime mieux la cigarette que l'alcool, je t'en fumerais une droite là.
Mais tu parles d'objectifs de montagne. Je pense qu'en début de rétablissement, c'est quelque chose qui doit être sain à faire, de se mettre des petits buts, des petits objectifs.
Mais moi, un des trucs que je donne beaucoup avec les gens avec qui je travaille, c'est de se fixer 3 objectifs, puis de vraiment les écrire. Parce que quand on les écrit, ils prennent forme, ils sont réels. Mm-hmm. Tu sais, dans notre cerveau, c'est des pensées.
C'est plus flou, là.
Moi, je dis d'abord, faites-vous un objectif de 6 mois et moins. Qu'est-ce que vous avez à accomplir? Il y en a que ce n'est pas toujours des rêves, là. Il y en a, c'est mettre de l'ordre dans nos finances, mettre de l'ordre dans nos papiers, payer nos contraventions. Tu sais, on arrive
des
souvent…
Des objectifs
là,
moins le fun.
Moins le fun, mais qui vont faire tellement de bien. Donc, c'est d'avoir des buts de choses à faire en dedans de 6 mois. Après ça, de 6 mois à 1 an. Là, on commence à « j'aimerais ça apprendre à jouer de la guitare, j'aimerais ça devenir DJ, prendre des cours, j'aimerais ça n'importe quoi. » Puis c'est ça, vas-y, t'as pas… Tu sais, la liberté de l'abstinence et de la sobriété, c'est que j'ai pas de limite. J'ai la liberté d'essayer ce que je veux. Puis après ça, de se faire des plans à long terme. Puis, j'ai le goût de vous dire… Fais-moi pas confiance. Essaye-le. Puis, d'après mon expérience, beaucoup de tes buts que tu t'es mis de 6 mois à 1 an vont avoir été comblés de 0 à 6 mois. Puis, il y a des chances que tu puisses allonger ta liste de 1 an et plus. Puis, tu puisses faire ce qu'on appelle un bucket list, là, des choses que... Tu sais, moi, c'est hallucinant, les affaires que j'ai faites. Là,
genre?
Moi, j'aime beaucoup être en vacances, puis quand je suis en vacances, j'en prends pas assez, donc je suis brûlé, fait que je veux rien faire. J'aime beaucoup les tout inclus et j'aime beaucoup les clubs med. Ben moi, j'ai découvert en rétablissement qu'il y a une agence de voyage aux États-Unis qui s'appelle Sober Vacation International qui loue des clubs med et que dans le club med, il n'y a pas une goutte d'alcool et tous les gens qui sont là, c'est soit des membres de fraternité ou leur famille. Et mais c'est extraordinaire. J'ai pas à me casser la tête. Je vais souvent à Cuba ou des choses comme ça. Mais même si j'ai appris à dire mojito sans alcool, là, ma job, c'est de regarder le barman le faire, mon mojito. Parce que lui, il en fait 800 par jour. Là. Puis moi, même si j'ai dit sans alcool, là, lui, il va prendre la bouteille de rhum puis il va la mettre à réflexe dans le verre. Fait que ça, c'est ma responsabilité.
Puis il y a des parties aussi qui se donnent, qui sont sans alcool. Là, peut-être moins en ce moment, mais je pense que vous avez déjà fait le DJ ensemble dans un événement qui a été sans
fest.
Alcool.
Sober ouais, Fest. On a mixé ensemble.
C'est comment? Est-ce que c'est quoi? Parce que j'imagine que c'est un buzz d'être DJ devant des milliers de personnes. C'est quoi dans un événement qui n'a pas d'alcool ou de consommation? Est-ce que c'est différent?
Ben écoute, c'est la même affaire. Moi, c'est moi. C'est moi qui est sobre. C'est pas le monde. T'sais, le monde, j'ai contrôle pareil. Je sais pas toi, là, mais après 16, 17, ça fait 17 ans cette année que... 18, je pense. En tout cas, je suis capable de les contrôler. Je suis capable de les envoyer aux toilettes, de les envoyer au bar, de les envoyer. Puis ça, ce contrôle-là, c'est ça que j'aime quand je fais le DJ. Fait qu'ils soient sobres ou non, j'aime quasiment mieux quand ils sont sous, ils sont plus contrôlables.
Ils sont plus balayables.
Ça, c'est tellement vrai ce qu'elle dit.
Tu sais, ils voient faire leur shot, là, son ça. Puis là, à la fin de la soirée, ils frenchent le gars pas dedans. Puis c'est comme, toi, tu vas le regretter demain.
Un beau buzz que tu as vécu dans ta vie en rétablissement depuis 5 ans, quelque chose qui a été marquant, ce serait quoi?
Tout. C'est ça qui est capoté. Toute, chaque minute que je m'en rappelle le lendemain, puis que je suis là, je suis présente. Moi, j'étais pas là. J'étais là physiquement, d'attitude. Il y a rien en dedans, là. J'écoutais pas, j'avais aucune empathie, j'avais aucune compassion. Excusez, là, mais je me collissais de tout. J'étais pas là. J'étais jamais là. Tu le vois en entrevue, tu le vois dans les films que j'ai faits, dans tout ce que je faisais, là. J'étais pas là, là. J'étais là physiquement, d'attitude, parce que j'étais mannequin. On me disait, sois belle et tais-toi. Fait que je ramassais tout en dedans, tout restait là, puis c'est... Je partais dans mon monde, là. Je m'en allais en dessous de l'eau. Je fais de la plongée sous-marine. C'est pour ça qu'il y a ça dans le documentaire. Ouais. Là. C'est la référence à la plongée. Je partais en plongée sous-marine. Moi, je m'en allais à 300 pieds.
Qu'est-ce que tu fais pour avoir du plaisir aujourd'hui?
Ben c'est ça. C'est des niaiseries. C'est con, là, mais c'est des niaiseries comme aller courir sa trail autour du lac. C'est hallucinant. C'est plus encore que toutes les bouteilles de vodka puis de toutes les autres affaires, les petits cadeaux qui font rire que je faisais. Mais toute la simplicité des choses que je n'étais pas... Moi, je me cachais de ça. Le soleil se levait, les rideaux se fermaient, puis c'était l'enfer. Là, maintenant, si je fais de l'insomnie, mettons, je regarde le soleil se lever, je trouve ça tellement extraordinaire. Je suis rendue fif.
Tu fais des hikes aussi, je pense. Tu montes des montagnes.
Ouais, ben je fais tout plein de choses là. Je fais tout plein de. Ben je sors avec une athlète professionnelle. Fait que c'est le fun.
Ouais.
Je fais de l'exercice challenge.
On finit par s'entourer des gens qui nous ressemblent. Donc en consommation, on attire des gens parce que ça c'était un des sujets. Notre entourage, il finit par changer lorsqu'on arrête de consommer.
Ouais.
Puis finalement on dit, tu sais, perception is projection. T'attires qu'est-ce que tu dégages. Puis moi, pour ma part, j'ai fait un voyage à Hawaï il y a quelques mois. Puis j'aurais jamais pensé que c'était ça, faire un voyage. Pour moi, c'était être assis à la plage, être assis au bord. Finalement, c'est ça, un verre. Tu sais, tu vis pas l'expérience, dans le fond. Tu aurais pu faire la même chose n'importe où dans le monde. Là, finalement, j'étais allé faire du hiking. J'ai fait tous les hikings possibles qui étaient légaux. Puis je suis les règles maintenant. Ça, c'est quelque chose de vraiment bizarre. J'écoute, puis je suis les règlements. S'ils disent que tu peux pas faire ça, ben j'essaie de pas le faire. Alors qu'avant, je m'en foutais que c'était pas permis.
J'aime bien le « j'essaie de pas le faire ».
Non, j'essaie.
Il se laisse quand même une petite marge de manœuvre.
Pas parfait encore, le Jean-Claude. Tu sais, puis Jean-Claude, ça m'a frappé parce que en même temps, maintenant, on chemine un peu ensemble. C'est mon sober coach, on parle de choses. Puis lui, il m'a dit qu'il suit toutes les règles qui sont comme si c'est pas permis de faire quelque chose, il le fait pas. Parce que ça fait partie de son mode de vie. Fait que tu sais, on a mis ça en pratique. C'est ça le miracle du rétablissement. C'est que tu étais quelqu'un un petit peu dysfonctionnel, puis finalement, tu es rendu un citoyen modèle, un exemple. Tu sais, comme moi, j'étais un exemple aujourd'hui. Wow! J'ai jamais pensé être un exemple, tu sais.
Quand est-ce qu'on se revoit, là?
Je sais pas, on se revoit vendredi, je pense.
Mais moi, j'ai hâte de voyager. Je trouve ça beau de te voir parler de ça parce que t'as les yeux brillants.
Ouais, je me souviens de tout, premièrement, de qu'est-ce que j'ai vécu. Fait que, tu sais, ça, c'est déjà comme magique.
Puis une des choses, si les gens ne savent pas, ce qu'on utilise comme outil pour rester équilibré, les fraternités, il y en a partout dans le monde, ou à peu près.
Exactement. Puis si tu parles, tu sais, nous, on parle 3 langues, c'est excellent, là. Mm-hmm. Tu sais, je peux me faire du meeting en Italie, en français, en anglais.
Puis à peu près partout, il y a toujours, étant donné que la base est quand même anglaise, moi, je sais qu'il y a des meetings anglophones à Paris.
Ouais.
pour les Américains qui voyagent, c'est un petit peu plus la langue internationale. Mais moi, j'ai eu la chance de faire un meeting où j'ai rien compris de ce qu'ils disaient.
C'était où, donc?
C'est la même affaire.
Ah oui?
Puis c'est extraordinaire parce que j'ai ressenti tout ce qu'ils disaient, même si je ne comprenais pas la langue. Mmh. Ça se passe à un autre niveau. C'est pour ça que le message, il faut juste le lancer dans l'univers. On ne sait pas quand, comment. Et puis le message, c'est quoi? C'est que ça se peut vivre sans consommer et être heureux. C'est simple comme ça.
Quand, à un moment donné, la vie va faire en sorte qu'on n'est plus en pandémie mondiale puis qu'on va pouvoir recommencer à vivre et à faire des voyages. Tu me parlais, Jean-Claude, que sur les bateaux de croisière, souvent, quand tu regardes le petit dépliant, là, activité, bingo, les amis de Billy Bob. Sur tous les bateaux de croisière.
Sur tous les bateaux de croisière, il y a une salle. Puis dans le plan de la journée, il y en a qui sont prévus. Donc, tu peux soit aller, la salle est toujours ouverte, il y a toujours du café. On fait encore référence au café. Mais tu peux aller t'asseoir là, puis ça se peut que quelqu'un d'autre qui ne file pas, qui a besoin de jaser, mais il va venir aussi. Et il y a des meetings cédulés.
Je pense que de se rétablir, c'est un choix. Puis après ça, mais quand tu te rends compte de tous les outils qu'il y a, bien, ça te facilite la vie, puis ça te facilite la tâche.
Puis je vais faire référence encore à ton podcast, Anne.
À ton documentaire.
Anne Gauvin parlait d'une des choses les plus importantes, c'est pas d'admettre, c'est d'accepter. Puis la différence entre les deux, c'est d'arrêter de se battre. Une fois qu'on a arrêté de se battre, puis on dépose les armes, là, c'est incroyable l'énergie qu'on a pour construire des choses, puis commencer à se construire nous-mêmes. Parce qu'on en a de l'énergie, parce qu'on en met... Tu sais, comme tu disais, c'est une job à temps plein, mais c'est une job à temps plein qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de tout ce qu'on a comme ressources humaines, là, personnelles. On met tout dans la consommation. Comme moi, je mettais tout.
Voyager aussi, c'était compliqué pour moi, non? Parce qu'il fallait que j'aille des choses là-bas, là. Tu sais, moi, c'est un pays par jour, là, littéralement, là. Un nouveau pays. Aujourd'hui, je me couche à Tokyo, puis demain, je vais être en Espagne, puis après-demain, je fais tout le temps, pendant beaucoup d'années. Fait que c'était tout prévoir.
Choses illégales, okay,
c'est ça, il fallait que j'aille tout ça planifier, moi, là, pour que quand j'arrive, que je ne sois pas en manque, là, parce que je m'en vais direct au studio. Il faut que le chauffeur vienne me chercher à l'aéroport avec des petites choses.
Puis dans on a parlé des fraternités anonymes, il y a de la littérature. Puis je pense que ce serait fun qu'on en parle parce que j'ai lu « Vivre sans alcool » dans la littérature AA. Puis il y a aussi d'autres...
D'autres ouvrages,
oui. Moi, j'aime beaucoup un livre d'une autre fraternité qui s'appelle « Living Clean ». Parce que pour moi, c'est ça le défi aujourd'hui. C'est plus un combat pour moi, puis je pense pour vous, en tout cas, quotidiennement. Il y a peut-être des journées, des moments où ça va popper, mais c'est on fait quoi à cette heure qu'on a arrêté de consommer? Puis c'est là que la notion un peu de faire ce podcast-là sur le plaisir, c'est que plus vite je vais avoir du plaisir sans consommer, bien plus je vais éloigner cette espèce de combat-là qui peut arriver n'importe quand.
Est-ce que Living Clean, c'est disponible en français ou seulement en
anglais? Non, pas encore. Disponible en anglais, ça sort, il est à l'impression présentement. C'est un livre de la Fraternité narcotique anonyme, mais qui est extraordinaire.
On va mettre le lien pour les gens qui voudraient se le procurer.
Il y a aussi d'autres choses, c'est que tu finis par te faire plein de nouveaux amis qui ne consomment pas, puis on en a parlé, mais la meilleure personne pour aider un dépendant, c'est un autre dépendant. Moi, je raconte souvent l'histoire, puis j'ai partagé aussi dernièrement dans les jours d'unité NA. On m'a demandé de partager, puis là, j'ai sorti l'histoire de l'alcoolique qui est tombé dans un trou. Le docteur passait par là, puis le docteur, il fait une prescription, puis il s'en va, tu sais. Puis finalement, il y a un psychologue qui passait par là. Le psychologue, il s'assoit, puis il regarde l'alcoolique dans son trou, puis il écoute parler pendant une heure. L'alcoolique, il sent mieux, tu sais. Mais il finit par s'en aller, le psychologue, puis on va se revoir vendredi prochain.
Il reste seul dans son trou.
Il est encore dans son trou. Puis là, il y a un alcoolique en rétablissement qui passait par là, puis il saute dans le trou. Fait que là, l'autre, il dit, « Qu'est-ce que tu fais là? On va être les deux pris dans un trou. » Puis l'alcoolique en rétablissement, il a dit, « Ben moi, j'ai déjà été à la même place que toi, puis ensemble, on va s'en sortir. » Fait que pour moi, cette image-là est tellement forte. Si ça va mal, là, appelle un alcoolique ou un dépendant en rétablissement. Comme ça, c'est la solution magique à tous les problèmes. Ouais. Juste parle avec quelqu'un puis partage cette expérience-là parce qu'il n'y a personne de mieux placé pour comprendre qu'est-ce que tu vis.
Complètement. C'est écrit, en fait, sur les porte-clés d'une fraternité anonyme. Puis je trouve ça beau que tu en parles parce que je m'étais dit dans ma tête, je m'étais pris une petite note mentale. Ce serait le fun de le dire, ça, d'appeler avant. Parce que c'est une phrase qui est tellement simple. Appeler quelqu'un avant de faire une niaiserie, avant de retourner consommer, avant de se vendre l'idée que peut-être une dernière shot, je vais être capable, ça va être correct.
Ça fait 5 ans, c'est sûr que je suis correct. Là, je vais être capable au bout. Là.
C'est ça.
Juste une.
Mais on est
31
bon.
Décembre.
Je vais avoir le
on est bon pour se vendre cette idée-là. T'sais, on a parlé de la rechute avec Étienne Boulay, puis c'est ça, c'est de se dire « Non, ça va être chill, ça va être correct, je vais être bon, on va l'avoir cette fois-là. »
Moi, je pense qu'un des plus gros, des outils les plus importants du rétablissement, c'est la parole. Que tu appelles avant, si tu as envie de consommer, ça c'est clair, parce qu'après, je ne peux pas rien faire pour toi. Il est trop tard. On attend que tu finisses ton seul verre que tu prends, mais qui va durer 3 jours. Même quand tu es en rétablissement, c'est un exemple que je vous avais donné quand on préparait l'épisode. Moi, je travaillais, je faisais un suivi post-cure. Puis j'avais quelqu'un qui sortait de thérapie, puis que je ne sais pas comment on l'a amené sur le sujet. On parlait un peu de deuil. Puis lui, il dit, moi, je suis un pêcheur. Mais il dit, je ne peux plus pêcher. Parce qu'il dit, moi, aller pêcher, c'était 3 caisses de 24. Puis mes chums, c'était la même affaire. Puis il est devenu émotif. Puis au point, il y a des larmes qui sont sorties. Tu voyais vraiment... Là, il réalisait que sa vie avait changé. Fait que là, moi, je l'ai félicité d'abord parce qu'il avait choisi de rester abstinent, parce que sinon, il n'aurait pas vécu le deuil. Puis ensuite, j'ai demandé aux gars autour de la table, parce que c'est un atelier de groupe, je disais, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pêchent? Puis on a eu une pause café pas longtemps après. Quand on est revenu de la pause, ce gars-là qui pleurait, 15 minutes avant, il y avait 3 voyages de pêche de bouquet avec des gars qui étaient autour de la table. Puis il y avait un sourire, tu sais, le sourire de l'âme, là, celui que tu vois à travers le masque, là, parce qu'il était heureux, parce qu'il venait, il avait fait son choix, qu'il irait plus avec ceux qui consommaient. Puis la vie, il a emmené 3 gars. La première fois où il en a parlé, où il a été capable de se booker des voyages de pêche. Il faut en parler. Il faut se dire. Parce que moi, si je reste avec toutes ces malaises-là, ces mal-être-là, moi, c'est ça qui me tue. Puis là, j'ai l'impression que je suis seul puis que je fais plus partie de la grande communauté de ceux qui essayent de vivre abstinent, tu sais.
Ça a été une super belle conversation. Puis dans le documentaire que j'ai d'ailleurs adoré, Dompter son dragon, que je suggère à tout le monde d'écouter,
c'est 1 heure et 5 minutes.
C'est
1 heure 5. Puis même si t'es pas en rétablissement ou même si t'es pas, t'as pas un doute sur ta consommation ou quelqu'un qui est dans ta famille, c'est vraiment super bon.
C'est super pertinent.
Ouais.
À la fin, là, Eve, tu poses une question, puis j'ai tellement aimé la question. Fait que je vais la poser à tout le monde ici autour de la table. Tu disais... Qu'est-ce que tu dirais à la personne si tu te rencontrais là, en pleine consommation? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Est-ce que je me rappelle pas si tu as répondu dans le documentaire, toi, qu'est-ce que tu lui dirais à Eve en consommation?
Elle n'écoutait pas, moi. Elle n'entendait pas. Tu sais, je fais référence à être en dessous de l'eau tout le temps. Moi, j'étais en dessous de l'eau, là. J'entendais rien de ce qu'il disait hors de l'eau. Je dirais rien.
Wow.
Toi?
C'est dur pour moi de répondre à cette question-là, même que ça m'a rendu émotif de penser à la question dans le documentaire, mais je pense que je lui dirais, tu sais, ça va être correct. Ça va bien aller. Tu peux être... Tu sais, moi, mes valeurs là, qui sont tellement importantes, je les ai mis de côté dans la consommation. Puis là, d'y retrouver, c'est ça qui me motive de continuer. Puis je lui dirais comme, lâche pas. Surtout, abandonne pas. Puis prends pas une solution qui est permanente pour un problème qui est temporaire.
Mm.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
C'est une bonne question. Je pense que je l'aurais pris dans mes bras. Je pense que c'est juste ça qu'elle avait besoin. Oui. La petite, là, la petite Marie-Pierre que tu parlais, là, toi, tu dis souvent que tu envoies la petite Ève au front. C'est vraiment ce que j'ai fait. Pendant des années. Ouais. C'est ça. Je prendrais la main, je dirais. Hey. On va faire un petit bout ensemble, ça va être correct.
ici, notre rire à nous. Moi, c'est drôle. La seule affaire qui montait, parce que je savais que vous arriviez à moi, c'est, je pense que je dirais, avec ce que je sais aujourd'hui, c'est fais attention à toi, puis si tu passes au travers, tu vas avoir un sacrement de bon partage. Parce que c'est ça. Tu sais, ouais. En quelque part, je regrette rien, puis pas parce que j'ai vécu des affaires si extraordinaires que ça, mais en même temps, c'est ce qui m'a construit. C'est mm-hmm. la base de mes fondations. T'es belle.
Ah.
Ah non, mais moi, je trouve ça beau, quelqu'un qui pleure, là, ça. Ah. C'est ça, c'est les bases de la fondation ouais. sur lesquelles j'ai construit le reste. T'sais. Puis c'est pour ça que je suis empathique à ce que tu vis. Puis ça me touche parce que je l'ai vécu, ce que tu vis là.
Ouais.
J'ai touché à ça aussi. T'sais. C'est comme. Parce que justement, je ne consomme pas. Je touche à toutes ces affaires-là. Mais c'est un cadeau extraordinaire. T'sais.
Toucher à ses émotions.
On est toutes fifes.
ça, c'est sage parole. Merci beaucoup, Salvaire. De nous avoir touché, de nous avoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation et d'en parler avec toute humilité de ton expérience. Puis je suis sûr que ça va aider quelqu'un qui souffre. Et merci, Jean-Claude, pour tes mots, toute ta sagesse de rétablissement en 30 quelques années de rétablissement. Marie-Pierre, encore une fois, merci de collaborer.
C'est pas Jean-Claude qui brague, c'est Angelo qui brague pour Jean-Claude.
C'est ça.
Je sais que j'aime pas ça.
C'est pour ça, on le met on the spot. Puis Marie-Pierre, surtout, merci de ton humilité puis de parler du rétablissement. Puis j'adore collaborer avec toi. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez aussi plugger?
Moi, je veux plugger le fait que c'est extraordinaire ce que vous faites. Merci de faire ça. C'est vraiment extraordinaire. Ça en prend plus. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ose parler puis s'extérioriser. Puis c'est vraiment fantastique. Puis je suis sûre que vous aidez plein de monde.
Moi, merci. Je pense que c'est à gang qu'on le fait parce que c'est aussi avec des projets comme ton documentaire qu'on va réussir à briser le tabou. Je te remercie aussi de ce que tu fais. Merci aux gens à la maison d'avoir été avec nous. Si
merci
vous
à
avez...
toute l'équipe
oui, merci
qui permet qu'on ait, on ait de l'allure.
Oui, et partagez le podcast avec des gens de votre entourage. Si vous l'avez écouté, si vous avez aimé ça, même si vous n'avez pas aimé ça, partagez-le pareil. On n'est pas regardant.
Subscribe, partagez, un petit like, ça l'aide à faire connaître le podcast puis d'en parler.
Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, on répond.
Oui, ouais, Jean-Claude qui répondait directement à des gens qui avaient des questions. Merci de prendre le temps de faire ça. C'est tellement pertinent puis important. Parce que ça vient de quelqu'un qui a le background. Tu sais, moi, j'ai juste 3 ans et demi de rétablissement. D'avoir quelqu'un qui vient et qui amène toute son expérience.
Et ton savoir et ta sagesse.
Alors, il ne me reste plus qu'à dire merci pour votre écoute. Puis, it's a wrap.